Alors, on va écouter maintenant Jean-Michel Arzur, qui est psychanalyste à Rennes, enseignant du Collège clinique de l'Ouest, et donc, avec le titre « Éthique, discours et transmission ». Voilà. Ah, mais attends, je ne vais pas vous... Voilà.
Alors, tout le monde sait maintenant qu'il y a un inconscient, dit Lacan, ça n'épate plus personne. Il n'y a qu'à feuilleter des magazines ou bien écouter quelques débats pour remarquer que des psychanalystes sont régulièrement convoqués à titre d'experts. Néanmoins, ceux qui travaillent en institution constatent que lorsqu'elle n'est pas simplement rejetée, la clinique analytique peut être tolérée au même titre que d'autres pratiques comme une option possible dans un panel de propositions thérapeutiques à destination d'un usager au sein d'un dispositif qui doit calculer les compensations auxquelles il peut prétendre. S'il y a un principe éthique qui préside à cela, il convient de le distinguer de l'éthique analytique. Ce discours actuel me semble sous-tendu par l'éthique des utilitaires, dont l'axiome « le plus grand bonheur du plus grand nombre » n'est pas sans évoquer la promesse du discours capitaliste. Alors, les références de Lacan à l'utilitarisme lui permettent de situer historiquement le moment d'émergence du discours analytique, mais aussi de procéder à la distinction des registres de l'utile et de la jouissance, puisque la limite de l'éthique utilitaire concerne ce qui, de la jouissance, ne peut pas passer à la comptabilité, soit à l'appareillage du langage. Donc si toute formation humaine constitue ce qui peut réfréner la jouissance, cela signe logiquement la place de ce qui peut faire défaut à ce principe. Nous voyons comment Freud et son au-delà du principe de plaisir produisit une véritable subversion éthique de ramener la jouissance à sa place. Alors Lacan considère le discours comme un appareil dont la seule présence domine et gouverne tout ce qui peut surgir de parole. Cela nous conduit au socle commun du discours du maître à partir duquel les autres discours procèdent. Lorsqu'il énonce dans télévision que l'éthique est relative au discours, Lacan fait entendre la modalité de réponse au réel propre à chaque discours, mais également comment chacun d'eux s'inscrit aussi relativement à un autre. C'est dire que cette dépendance du discours analytique n'est pas simplement un fait historique, l'enjeu plus que jamais est actuel, l'enjeu plus que jamais actuel est éthique. Cependant, Lacan subordonne l'écriture des trois autres discours au surgissement du discours analytique, dans la mesure où ce dernier permet de voir d'où s'assure le réel dont il tient comme discours. Lacan fait de l'objectita la construction même du discours et pas seulement une place localisable et relative à d'autres. C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'il n'y a deux discours et pas seulement l'analytique que de la jouissance. Alors peut-on compter encore aujourd'hui sur le discours de l'hystérique que Lacan identifie au discours scientifique lui-même, discours qui mène au savoir et qui est ce qui a fait office de passage avec quelque chose d'autre qui est le discours du psychanalyste. Sidia Scofaré évoque l'idée d'un nouveau malaise dans la civilisation qui met en rapport avec l'idéologie de la suppression du sujet, conséquence de la place que prend le savoir dans le champ de la science. Il devient dès lors plus difficile d'isoler le désir et le savoir dans les discours actuels. Alors l'hystérique serait-elle en panne d'une incarnation du discours du maître, en cette époque de savoir morcelé, conséquence d'une cassure historique qui inaugure une répartition entre les savants de la science d'un côté et de l'autre, les formes de la recherche scientifique dont les résultats s'occupent de coloniser notre quotidien et alimenter le manque à jouir propre au discours capitaliste. On ne peut plus compter, dit Colette Solaire, sur le savoir de la science pour susciter un désir inédit du savoir, ne serait-ce que parce qu'on ne peut plus parler du savoir de la science, dont le modèle majeur est la physique. Dès lors, si on ne peut compter que sur les psychanalystes, la question se pose de savoir si le discours analytique peut avoir un effet sur social dans la mesure où il est plutôt lui-même un effet, un symptôme du social. Cependant, force est de constater que pour faire le buzz, comme on dit aujourd'hui, rien de tel que la propagation du signifiant maître qui se répand dans le langage comme une traînée de poudre. Cette efficacité se fonde sur le pouvoir de commandement du signifiant. Il suffit d'un signe et tout le monde cavale, dit Lacan. C'est une pente naturelle à laquelle il est bien difficile d'échapper, même pour les analystes. Alors que la prescription sociale se fasse au niveau citoyen ou même dans le champ des institutions cliniques n'est pas sans poser quelques problèmes éthiques. Je passe sur la prise de position quant à la politique de notre pays pour m'intéresser à un phénomène plus insidieux qui bénéficie d'un essor particulier dans ma région et qui est le résultat de la politique d'une école de psychanalyse. Il s'agit d'un réseau institutionnel de psychanalyse appliquée qui se donne actuellement pour but de coordonner les institutions cliniques estampillées d'orientation lacanienne. Alors cette politique démontre son efficacité quant à la consolidation de la place de la psychanalyse dans les institutions et on devrait, a priori, s'en réjouir. Mais outre une infiltration grandissante de plusieurs services hospitaliers, on assiste à une véritable mainmise sur plusieurs institutions médico-sociales et je passe sur le rôle majeur des universitaires dans ce maillage qui se fait de plus en plus serré et exclusif. Alors que constate-t-on au-delà des effets de transfert? Ce sont les mêmes que l'on retrouve en différents endroits stratégiques, universités, institutions cliniques ou leurs conseils d'administration, ou encore comme consultants, au sein des centres de consultation de la dite école. Cette politique me semble fondée sur l'exploitation des AstuD, en haut et à droite du matène du discours universitaire. C'est sûr que cela a un certain succès et que cela fait du chiffre, d'autant plus que le recrutement se fait dès le berceau, c'est-à-dire l'université. Lacan montre comment la réduction du discours du maître au discours de l'université, loin de générer du savoir, produit de la culture. Il identifie l'étudiant à une plus-value comptable, au prolétaire du système capitaliste, qui, en participant à cette accumulation du plus de jouir, nourrit le système. Une école de psychanalyse n'est donc pas à l'abri, n'est pas un abri, pardon, à toute épreuve contre le discours universitaire. Orienté, c'est prescrire le parcours, toute initiative qu'on puisse le penser. À mettre le savoir aux commandes, n'est-ce pas se rendre complice d'une accumulation que Lacan pointait comme pur savoir du maître, régi par le commandement, en S1, continue à toujours plus savoir. La conséquence de la localisation du signe du maître en cette place, c'est, dit Lacan, que toute question sur la vérité est à proprement parler écrasée. Le prix à payer concerne donc le statut du savoir. Alors, étudiant un jour, étudiant toujours, c'est sûrement assez reposant que de se laisser absorber par la machine, d'autant que cela assure de la carrière et donc de la hiérarchie. Tel programme n'est évidemment pas sans conséquence sur le désir de chacun et a fortiori sur le désir de l'analyste. Ce chemin indiqué, le même pour tous et pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, semble l'exact envers de l'éthique de l'analyste qui a pour principe le désir, fait d'un rapport singulier au réel. Au nom d'une extension nécessaire face aux dangers qui menacent l'existence même de la psychanalyse, on assiste plutôt au renforcement du pouvoir. Un bras armé du discours analytique est-il véritablement en mesure de faire réponse aux autres discours? N'est-ce pas plutôt la promotion d'un nouveau semblant? Lacan évoque la faiblesse du psychanalyste lorsqu'il est pris au collectif, et stigmatise les propagandistes de la psychanalyse et leur boniment. Les psychanalystes, quand il y en a une foule, une tripotée, veulent qu'on sache qu'ils sont là pour le bien de tous, éthique utilitaire. À côté de cela, Lacan fait allusion à un temps où on s'apercevra qu'être psychanalyste peut être une place dans la société. La psychanalyse, dit-il, sera de plus en plus utile à préserver au milieu du mouvement toujours plus accéléré dans lequel entre notre monde, soit face aux conséquences de la science qui fonctionne toujours au bénéfice du maître et qui a réussi, dit-il, à faire glisser vers lui tout doucement l'appareil du savoir. Quelle serait donc cette place à tenir dans la société ? Il me semble qu'il s'agisse du psychanalyste et non de l'existence de l'inconscient qui est passé au public par le biais de la découverte freudienne. Alors, en dehors du commandement du maître, des boniments ou de ce qui, de la psychanalyse, entre dans le discours pour se résorber, s'homogénéiser dans la consommation générale et participer de la culture, la question est de savoir ce qui peut faire trace et se transmettre au-delà de ce qu'on croit devoir dire de ce qu'est la psychanalyse au grand public. Le paradoxe réside dans le fait que seul le discours analytique offre une place à l'identité de jouissance, soit ce qui pour chacun ne relie à rien, mais difficile à faire exister en dehors du lien analysant-analyste. Cela ne fait pas communauté, ne passe pas au social ou alors dans des conditions particulières. Il y a bien une incidence dans le champ collectif de l'acte de l'analyse puisqu'il peut avoir des effets sur des sujets. Le dispositif de la passe permet de sortir du colloque singulier pour faire entendre au sein de l'école les résultats de l'expérience. L'existence même d'une école est un des moyens, pour que la psychanalyse puisse continuer à être un symptôme de l'époque et contrer d'une part la tendance à la marginalisation avec le risque de devenir un symptôme oublié et d'autre part la tendance à l'assimilation par les autres discours. Alors l'école donnerait-elle un lieu, une consistance nécessaire au discours pour abriter ce qui par essence ne fait pas lien ? Mais pour qu'on s'adresse à la psychanalyse au travers d'une école, encore faut-il que quelque chose du travail de ces analystes fasse immixtion signifiante dans les discours. Le savoir de l'impuissance, voilà ce que le psychanalyste pourrait véhiculer. Cette phrase de Lacan m'a arrêté dans la mesure où il semble indiquer une voie inverse à la puissance des autres discours. Le terme véhiculé est aussi étonnant, c'est transporter avec soi, se faire le conducteur du savoir. Alors le savoir sur la vérité, c'est justement ce que Freud, le premier, a voulu mettre à l'abri. En effet, ce dont peut témoigner l'analyste, s'il veut parler avec sérieux d'expérience, c'est que la sexualité, qui a pris la fonction de vérité depuis Freud, fait trou dans la vérité, du fait de son inaptitude à s'avérer. Impuissance, incompréhension, vérité trouée. Comment penser que cela puisse se véhiculer alors que les autres discours tentent au contraire de tamponner la chose ? Lacan fait allusion au succès paradoxal de l'édition de ses écrits alors que beaucoup les disent incompréhensibles. Peut-être ont-ils besoin d'avoir un endroit où ils s'aperçoivent qu'on parle de ce qu'ils ne comprennent pas, dit-il, faisant entendre l'option inverse du savoir brandi en maître. Alors pour penser, est-ce qu'on peut penser que le discours analytique trouve certains endroits pour faire exister l'incompréhension, qui est une figure du symptôme ? Ce peut être une école de psychanalyse, mais sans doute pas toujours. Ce peut être des textes, ceux de Freud, ou encore les écrits de Lacan qui font trace des balises élaborées dans son séminaire. À ce propos, il est frappant de constater le rapport, somme toute assez libre, que Lacan semblait, c'est ma lecture, avoir avec ces lieux qui pouvaient tantôt l'accueillir, tantôt le mettre à la porte. C'est bien que l'endroit importe moins que ce dont il est fait, du dire existentiel de l'analyse, soutenu par des analystes capables d'occuper cette place pour d'autres et dans le social. Il y a pourtant un paradoxe logique, me semble-t-il, celui de donner consistance à un discours dont Lacan souligne le fait qu'il met plutôt en évidence une béance. C'est donc pas cela qui se véhicule, mais plutôt ce que produit le discours analytique. Rien d'autre que le discours du maître, dit Lacan, puisque le S1 vient à la place de production. Mais il fait ici allusion à un autre style de signifiant maître, un peu moins bête, en tant que c'est là tout ce qui supporte d'un certain savoir le réel. Est-ce cela qui peut se transmettre, passer dans le lien social, un savoir qui supporte le réel? Je me suis également arrêté sur la dernière phrase de Lacan dans son allocution sur l'enseignement. La vérité peut ne pas convaincre, le savoir passe en acte. Un savoir qui peut convaincre dépend de l'acte de l'analyste. La formule laisse entendre la question de la certitude, et donc de l'appui pris sur le réel de l'objectita, constitutif du style de l'analyste. Le style est d'ailleurs pour Lacan la seule formation que l'on peut transmettre, comme le rappelle Wyszyszkowicz dans un de ses textes. Il n'est cependant pas évident de cerner comment ce savoir particulier, produit au un par un, peut se diffuser, passer au social. Il faudrait pour cela que le savoir sur le réel passe à une certaine forme de reconnaissance. Pas trop d'autres mots en fait. Alors Colette Solaire avance l'idée d'un challenge pour la psychanalyse qui consonne avec le vœu de Lacan qu'elle puisse continuer à faire prime sur le marché. Cette référence à la politique mercantile du discours capitaliste n'est pas sans surprendre. Je cite l'idée développée par Colette Solaire. La question est de savoir si ce qui est à la charge de l'analyste soit la fonction causale de l'offre qui permet la transmission d'un désir du savoir, si la valeur d'échange de cette offre peut l'emporter sur la valeur d'usage. Ce serait la condition pour que l'objet de l'offre entre en jeu dans le lien social, et cela suppose la mise en jeu de l'imaginaire et du symbolique. On en revient donc non seulement à ce qui peut infiltrer les discours, mais ce qui peut, à l'instar de l'événement Freud, contribuer, par le savoir qui s'y dépose, à produire un changement dans les discours. Alors quand on évoque la rénovation de l'expérience, est-ce à dire que le discours analytique doit prendre en compte un certain nombre de changements dans les liens sociaux? Sans doute que oui, d'où la question de l'actualisation de la politique du champ lacanien. Il y a une nécessité pour la psychanalyse de pouvoir se faire entendre comme recours, afin qu'elle puisse continuer à être une opération contre le malaise dans la civilisation, dont l'école doit être la base, comme l'évoque Marc Strauss dans son préambule aux rencontres l'école et le discours qui auront lieu à Barcelone. Alors je termine par une considération de ce qui peut faire retour aux analystes, s'ils sont prêts à y répondre. J'ai commencé par la désertion de la référence à la psychanalyse dans les institutions. C'est un fait. Pourtant, plus que jamais, les analystes y sont appelés pour traiter du malaise, mais sans doute d'une autre manière, pour des demandes de supervision, ou encore, en tout cas dans notre région, pour la mise en place de présentations cliniques qui émanent des équipes, face à l'incompréhension grandissante de ce à quoi les soignants se confrontent. Dans le meilleur des cas, on peut supposer qu'il y a là le signe d'un désir du savoir. Dernière chose, nous avons organisé en tant que délégués deux rencontres ouvertes à tous sur la politique du champ lacanien. La seconde avait pour thème « Pourquoi une école ?». Nous avons été surpris de l'affluence qui dépassait le public habituel de nos activités. Outre des membres du pôle, il y avait de nombreux cliniciens, jeunes et moins jeunes, et des étudiants. Nous n'avons pas d'interprétation de la chose. Mais nous avons pris acte qu'il y avait sans doute à ouvrir plus largement cette question de l'école, qui apparaît de fait constituer une réponse pour plus de personnes que nous serions enclins à le penser. Voilà.